Chapitre 27. Confortablement installé dans son sprinter de l'autre côté de la rue, Bobby Deacon vit s'éteindre la dernière lumière qui brillait encore chez les Cantors sur l'écran de sa télévision. Scottsdale était une banlieue calme. Nombre de ses habitants avaient l'habitude de se coucher tôt, soit parce que leur ambition les poussait à se rendre très tôt à leur travail, soit parce qu'ils n'étaient plus en activité. On ne comptait plus les retraités originaires des quatre coins du pays venus profiter du soleil de l'Arizona. Bobby haïssait avec la même force les ambitieux et les retraités. Au prétexte que la grande majorité des seconds avaient relevé un jour de la catégorie des premiers avant de vampiriser sans complexe les ressources de la planète tout en menant des années durant une existence oisive. Lorsqu'il ne préparait pas un cambriolage ou qu'il n'en commettait pas un, Bobby fuyait les retraités. Il éprouvait le besoin de vivre, d'écouter de la musique à fond, de consommer les meilleures drogues, d'enchaîner les filles faciles. Il n'aimait pas les filles faciles, mais il ne pouvait pas s'en passer. À vrai dire, il méprisait les femmes, qu'elles soient faciles, difficiles, petites, grandes, discrètes ou vulgaires, riches ou pauvres. Mais il ne pouvait pas s'en passer. La façon dont elles profitaient des hommes au prétexte qu'ils avaient besoin d'elles, la façon dont elles les aguichaient, les manipulaient, les utilisaient, les raillaient, faisait d'elles les championnes de l'injustice. Parce qu'il avait une âme de justicier, Bobby estimait qu'il était de son devoir de rétablir l'équilibre entre les sexes chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il n'aimait pas les hommes pour autant. Les plus forts l'avaient souvent arabusté lorsqu'il ne se moquait pas ouvertement de ses allures de whippet. Quant aux plus faibles, il voyait en lui un raté comme eux. Les plus intelligents, à la vue de son visage allongé et de son front fuyant, le prenait pour un imbécile, tandis que les imbéciles l'insultaient, persuadés d'avoir affaire à un autre imbécile. Bobby aimait les gens en théorie, mais pas en pratique, et il en rejetait la faute sur eux. Il se voyait en champion de la masse des opprimés, des oubliés du système et des maudits de tout poil. Il regrettait néanmoins de ne pas apprécier individuellement certains de ses congénères, mais ils étaient si nombreux à se tromper, à afficher leur ignorance. C'était insupportable, mais c'était son lot, de servir la cause des malheureuses victimes qu'il méprisait, et il acceptait d'en payer le prix. À 23h, Bobby quitta le sprinter afin de s'accorder une petite balade dans la nuit tiède du désert. Incapable de flâner ou de musarder, il avait l'âme de bip-bip dont il partageait l'impatience, si bien que ses promenades ressemblaient à des courses de fond. Ce trait de caractère l'obligeait à porter un t-shirt, un short et des baskets lorsqu'il mettait le nez dehors, afin de donner l'impression qu'il faisait de l'exercice. Il traversa la rue en quelques enjambées, se dirigea vers la maison des Cantors et la longea afin de gagner la partie arrière. Les chiens étaient gros, mais ils ne lui faisaient pas peur. Pour avoir noté les habitudes de la maisonnée, il savait que les bergers allemands étaient consignés à l'intérieur en dehors de leur période de promenade. Bobby retira le micro miniature collé au carreau de la cuisine et regagna le sprinter. Il démarra et prit le chemin du motel où il était descendu sous le nom de Max Schreck, grâce au faux papier d'identité et à la carte bancaire à ce nom dont il disposait. Il prit une douche et enfila son pyjama de soie noire, avec ses jolies petites têtes de mort rouges ricanantes. Après avoir sniffé deux généreuses lignes de coke, il se versa un double Jack Daniels. Un stimulant et un dépresseur. Une combinaison qui décrivait à merveille son souci de trouver dans son quotidien l'équilibre qu'il espérait pour la société en tant que justicier. Il ouvrit son ordinateur portable et téléchargea le contenu de la puce du micro sur un CD soigneusement étiqueté, sûr que la postérité ferait un jour de lui un Robin des Bois moderne. Le micro-espion avait surpris trois longues conversations entre Bernie Rigovitz et le gamin. Bobby n'aimait pas les retraités et trouvait les gamins déroutants du fait de leur caractère fantasque. À la perspective d'écouter caqueter un vieux croulant et un chiard, il faillit s'accorder une nouvelle ligne de coke avant de se souvenir qu'il devait garder les idées claires en prévision d'un cambriolage aussi juteux. Au beau milieu de l'enregistrement, une troisième personne se joignit à la conversation. La voix de l'inconnu était plus grave que celle du vieux Bernie, mais elle possédait une innocence quasi enfantine. Le gamin se prénommait Travis, et le troisième intervenant aux intonations enfantines s'appelait Cornell. En clair, cela signifiait qu'il y avait trois occupants à l'intérieur de la maison, en plus des deux chiens.
« Fais chier !» grommela Bobby.
La survenue de cette complication le mit dans un tel état que, ne tenant plus en place, il se rendit dans la salle de bain et se rua sur sa sonicaire. En moyenne, Bobby Deacon se brossait les dents 12 fois par jour et il n'aurait pas manqué d'user ses gencives s'il avait eu recours à une brosse manuelle ordinaire, ce qui l'aurait obligé à consulter un parodontiste. Il envisageait l'hygiène dentaire avec le plus grand sérieux, conscient que son sourire était son meilleur atout. Si aucune femme ne l'avait jamais complimenté sur son physique ou ses cheveux, elles étaient nombreuses à lui dire qu'il avait un joli sourire. Ses dents, parfaitement alignées, étaient d'un blanc étincelant. Bobby tirait la plus grande fierté de ses dents. En plus de leur usage normal, ses crocs étaient à la fois un prolongement de sa personnalité érotique et un instrument d'intimidation. Dans le feu d'une rencontre sexuelle, il lui arrivait parfois de mordre sa partenaire afin de lui imposer sa loi. Bobby avait constaté avec amusement qu'il était souvent plus efficace de mordre que de menacer avec un couteau ou une arme à feu. Il retourna à son ordinateur et se replongea dans l'écoute de la conversation tripartite. Moins d'une minute plus tard, il apprenait que Travis, le gamin, n'était autre que le fils de Jane Hawke. Stupéfait, il écouta le passage concerné 3, 4, 5 fois avant de mettre l'enregistrement sur pause. Il se leva, au comble de l'excitation, s'approcha du miroir fixé sur la porte du placard et s'admira longuement dans son pyjama noir, tavelé de petites têtes de mort rouge aussi soigneusement alignées que ses dents. « Jackpot !» murmura-t-il.